Voilà, je vous invite à prendre vos Bibles et nous repartons sur le psaume 23. On n'a pas tout dit encore. Le psaume 23, c'est une condensation de beaucoup de pensées. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à ce psaume. Peut-être que vous le connaissez par cœur et pourrez suivre. C'est très bien aussi. Je vais relire ce psaume. Donc le psaume 23, c'est le cantique de David. Je pourrais lire le psaume en répétant le verset 1 au début de chaque verset. Hein? Et peut-être que je vais le faire, parce que c'est ainsi, c'est comme ça dans sa pensée. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire, c'est parce que l'Éternel est son berger, eh bien, dans toutes ces situations, et chacun de ces versets représente un tableau, mais aussi on pourrait dire qu'il représente un passage dans sa vie. Et dans un sens, ce psaume est un résumé de la vie de David. Le psaume, le verset 2, où il dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles », eh bien, représenterait certainement la jeunesse de David. Hein, il avait une belle jeunesse, et c'était tout merveilleux, le vert pâturage, et le ruisseau, Seigneur, il chantait avec sa harpe, il était avec ses brebis, pas de soucis, pas de problème, tout allait bien. C'était des moments de gloire. Il dit, mais dans cette période-là, l'Éternel était mon berger. Le verset 3, quand il dit... Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Eh bien là, certainement qu'il part de cette période, qu'il part du moment où tout d'un coup, on a pris conscience de son existence. C'est quand il a combattu le Goliath, hein, le géant. Et puis ensuite, qu'il a été invité dans le palais pour... Et puis il est devenu un guerrier de Saül et vous savez, et en même temps, il y avait des questionnements parce que Saül commençait à être jaloux. Saül a envoyé sa lance contre lui et il dit, il restaure mon âme, même quand je ne comprends pas. Mais je continue à marcher dans le chemin, la voie de la justice. Mais dans mon âme, je suis un peu perturbé parce que ce n'est pas comme ça que j'avais cru que les choses se passeraient. Et puis le verset 4... Eh bien, justement, parle de ces 10 années de la vie de David où il était fugitif, il était en fuite. Quand il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est cette période de 10 ans là où il est en fuite et Saül cherche à le tuer. Mais même là, l'Éternel est mon berger. Et puis nous sommes, aujourd'hui nous allons voir le verset 5 où il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Et ceci représenterait la partie de la vie de Christ quand il devient roi d'Israël, il est sur le trône et il n'a plus d'ennemis. Et puis, Dieu voulant, dimanche prochain on verra le verset 6 mais qui représentera cette période où David est à Jérusalem. Et puis il a le projet de construire le temple, que son fils en fait va réaliser, mais c'est lui qui a le projet, c'est lui qui met tout en place. Mais revoyons ce verset 5 où il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Et c'est sûr que vous êtes là, vous dites « Bon, c'est beau, mais je ne sais pas de quoi il parle. » Je viens de le dire, ça vient après cette période du verset 4 qu'il décrit par « Vallée de l'ombre de la mort » où David a frôlé la mort tant de fois. Parce que non seulement est-ce qu'il avait le roi Saül qui était décidé et déterminé de l'éliminer, et combien de fois, si vous lisez 1 Samuel, combien de fois il a failli réussir. Ça manquait de peu pour qu'il l'élimine. Mais Saül n'était pas son seul ennemi. Il y avait aussi tous ces Philistins. Ces Philistins dont il avait tué leur héros et contre qui il avait mené plusieurs guerres déjà pour Saül. Et les Philistins, ils n'avaient pas de bons souvenirs, de bonnes pensées pour David. Donc il ne pouvait pas fuir Juda puis aller chez les Philistins et espérer s'en sortir. Ils l'ont reconnu chaque fois. Et puis ensuite, il n'y avait pas seulement cela, mais c'est qu'en plus, dans sa propre nation, eh bien, les gens, les villes, les régions, eh bien, ne le recevaient pas parce qu'ils ne voulaient pas se mettre en porte-à-faux avec le roi. Le roi, une fois, un prêtre lui a rendu service et lui a donné à manger, et ça a été rapporté à Saül, et Saül a éliminé tous les gens de ce village. Et donc, personne n'était prêt à le recevoir. Et puis, il y avait aussi, parce que vous connaissez notre monde, il y a des gens aussi qui me disent, bon, ben si, on pourrait utiliser ça, on va trahir David, et puis après, le roi, il sera content, il nous rendra un service et il nous fera une faveur. Et donc, dans un sens, David n'avait pas où aller. C'était vraiment le fugitif. Tout ce qu'il avait avec lui, eh bien, c'était 400 hommes et sa famille. Il nous dit dans 1 Samuel chapitre 22, je vous lis le passage, 1 Samuel chapitre 22, il nous dit David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Bien sûr, hein, quand vous savez comment c'est, quand le roi il est contre un dans la famille, il est contre toute la famille et eux, ils ont fui. Et il dit, et tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. En fait, c'est tout. À part ces 400 hommes, parce qu'ils avaient un ennemi commun, et à part la famille, parce que leur vie était en danger, parce qu'il était leur fils et leur frère, et bien à part cela, tout le monde était ennemi. Activement ou passivement, mais tout le monde était son adversaire. Il n'avait pas où aller. Et puis il y a un moment, il nous parle dans chapitre 30, hein, Samuel 30, un jour il était absent et puis les Amalécites sont venus, ils ont attaqué la ville où il habitait avec ses hommes et emporté toutes les femmes et tous les enfants et tout cela. Et il revient, il trouve tout brûlé et puis il n'y a plus les femmes, les enfants. Imaginez sa solitude. Mais alors là, il est tout perdu. On va aller où ? Et tellement les hommes étaient dans la détresse, ils étaient prêts à lapider David. Et c'est vraiment, on a l'impression que tout le monde est contre nous. Et ce n'était pas seulement l'impression, mais c'était une réalité pour lui. Pourtant, David n'avait cherché le mal de personne. Au contraire, il avait été le protecteur de beaucoup. Dimanche dernier, on a parlé de la ville de Keïla. une ville qui était attaquée par les Philistins, et David qui va et qui les délivre, et ensuite se rend compte qu'eux, ils sont prêts à le trahir et le remettre à Saül en remerciement. Mais lui, il avait essayé de les délivrer. Il y avait dans 1 Samuel 25, eh bien, les serviteurs de David étaient là dans les campagnes avec les bergers de Nabal, un homme très riche qui avait d'immenses troupeaux. Et ce qui arrivait souvent avec les gens, les bandits de grand chemin, et bien, s'ils avaient besoin de quelque chose, ils attaquaient ces bergers, ils prenaient ce qu'il leur fallait. Mais David a pu dire, j'ai touché à aucun de tes troupeaux, aucun de tes serviteurs. Demande à tes serviteurs, on était là et on n'a pas touché. On n'a pas pris de force. Finalement, on était une protection pour eux. Et même, pour montrer le cœur de David, c'est que par deux fois, il avait Saül, le roi Saül, qui était allongé, qui dormait devant lui, à ses pieds. Et il aurait pu éliminer son ennemi. Celui qui, si les situations étaient à l'inverse, il l'aurait éliminé. Hein. Saül l'aurait tué. Mais lui, il a dit, non, je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. C'est Dieu qui s'occupe de lui. Moi, je ne touche pas. Je ne me venge pas. Je sais qu'il cherche ma vie et c'est injuste et tout cela. Et je sais qu'il m'aurait tué s'il m'avait trouvé. Mais moi, je me comporte pas comme lui. Dieu s'occupera de lui. Et par deux fois, David a eu l'occasion de mettre fin à cette vie, mais il a préféré attendre le temps de Dieu. Et puis alors, un jour, il y a Abigaïl qui vient parler à David. Il dit, David, parce que David était sur le point il est furieux à cause d'un comportement de Nabal et il allait se venger là. Là, la nature humaine est apparue et il était décidé à éliminer Nabal et tout ce qui lui appartenait. Et puis l'épouse de Nabal, Abigaël, donc 1 Samuel chapitre 25, hein, si vous voulez lire ça cet après-midi, eh bien, elle vient le voir et dit, écoute, David, ne fais pas ce que tu penses faire. Parce que un jour, Dieu a des projets pour toi. Et Dieu va te donner une responsabilité. Et tu ne voudrais pas avoir ça dans ton passé. Donc laisse faire Dieu pour qu'il n'y ait pas, il n'y ait rien. On ne puisse pas t'accuser de quelque chose de ton passé. Laisse, Dieu s'en occupera. Bon, c'est vrai que Dieu s'en est occupé parce que Nabal est mort d'une crise cardiaque juste après. Mais il dit, parce que Dieu a des grandes choses pour toi. Et donc, protège ton présent pour que Dieu puisse se servir de toi par la suite. Dites-moi, mais c'est pas moi qui cherche ma sœur. On me cherche mon mal. On est après moi. Et après, on me dit, comporte-toi bien, sois gentil, ne te laisse pas emporter, sois calme. Et tous les autres, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Vous comprenez cette pensée-là? Et peut-être vous l'avez eue. Hein, peut-être vous avez vécu une situation. Vous n'aviez que des bonnes motivations. Et puis, c'est sur vous que sont tombées toutes les fausses accusations. On vous a tout mis dessus. Les critiques étaient là. On vous a chargé de culpabilité alors que personne n'est regardé au vrai fautif. L'injustice était là, mais tous se sont retirés de vous. Vous étiez seul dans cette situation. Vous comprenez David. C'est un peu ce qui se fait. Dis David, fais ce qui est bien, fais ce qui est juste, contrôle-toi, tout ça. Et les autres, ben on les laisse faire. Et même Dieu les laisse faire. Et vous savez, il y a de quoi mettre en colère. La nature humaine, c'est sûr. Et pour David, et pendant tout ce temps, Il fait confiance à Dieu, hein, c'est ça, le verset 4, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, que tu es avec moi. Ma confiance est en toi. Je ne comprends rien, c'est injuste. » Et ça, en plus, ça a duré 10 ans. C'est pas 6 mois, 10 ans ça a duré. Mais David dit « L'Éternel est mon berger. Il est mon berger dans les bons jours et mon berger dans les jours difficiles. » Et vous savez, c'est pour ça qu'il quand même, il a appelé ça la vallée de l'ombre de la mort, quand même. Hein. C'est, il a ressenti la chose. Hein. C'est pas que bon, ça me touche pas, ça fait rien. Non. Il l'a vraiment vécu. Vous savez, c'est un peu, et on en a parlé tout à l'heure, hein, Jésus aussi a vécu ça. Hein, c'est, là, il n'a fait que du bien. Il rendait service. Il guérissait n'importe qui était malade. Serviteur de centurion romain, comme serviteur du chef de synagogue, comme la femme qui a été prise dans l'acte d'adultère, il était prêt à aider n'importe qui. Et puis comment est-ce qu'on lui dit merci ? On le crucifie avec deux brigands, en plus. Et il se retrouve seul. Là, vous savez, quand on vit ces choses, quand on vit des situations comme ça, vous savez, vous pouvez en parler à Jésus-Christ. Il comprend. Il est passé par là. Il dit, je te comprends. Il nous dit dans Hébreux chapitre 4, il dit, nous avons un souverain sacrificateur qui a souffert en toutes choses, qui a été tenté en toutes choses, comme nous le sommes. Il est passé par là. Il a goûté. Vous savez, vous pouvez dire à Dieu, vous pouvez dire tout ce qu'il y a dans le cœur, vous pouvez, bon et mal, et n'importe. Vous n'avez pas besoin d'être poli ni rien du tout. Vous pouvez lui dire. Parce que vous avez mal. Quand on a mal, on a le droit de dire aïe. Hein? Dieu donne le droit. Et donc, on a le droit de dire aïe, j'ai mal, Dieu. Mais j'ai confiance en toi quand même. C'est ça que Job disait. Il dit, même si tu me tues, je croirai en toi, j'espérerai en toi. Parce que tu ne peux pas m'enlever ma confiance en toi. Et ça, c'est le verset 4, et c'est cette vallée de l'ombre de la mort. Et vous savez, ces gens qui sont injustes, qui ont été durs avec vous, qui ont été cruels, qui n'ont pas compris, qui ont reproché des choses, et peut-être ils étaient mal placés pour dire ce qu'ils ont dit. Et vous savez, ne leur donnez pas le privilège d'écrire la fin de votre histoire. Dites, non, je fais confiance à Dieu et c'est Dieu qui va écrire la fin de mon histoire. C'est ça qu'il faut faire. Je ne peux rien, le monde est ce qu'il est, les gens sont ce qu'ils sont, et ils ont agi selon ce qui était en eux, et moi j'y peux rien, mais ce n'est pas eux qui vont écrire la fin de mon histoire. Et c'est un peu ça que nous voyons dans ce verset 5. C'est que David a attendu, il a attendu que Dieu écrive la suite de son histoire, le chapitre suivant. Et c'est pour ça que ce verset 5, tout d'un coup, ça change complètement de teneur. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Vous savez, c'est... Il dit que là, à la fin du livre d'un Samuel, Saül prend sa vie hein, parce qu'il est désespéré et tout change. Et tout d'un coup, vous savez ce qui arrive ? C'est que les chefs de la tribu de Juda, à laquelle appartient David, viennent le voir et disent « David, tu veux pas être notre roi ?» Et vous étiez où hein ? Ben, moi, quand j'étais en train de courir, où étiez-vous ? Non, il ne le dit pas. Il dit ça, Dieu s'occupera d'eux, moi, Dieu écrit la suite de mon histoire. Et on vient le chercher, on fait de lui roi, il est roi à Hébron pendant 7 ans, puis ensuite il ira sur Jérusalem, il mettra sa capitale à Jérusalem. Je ne fais pas de politique là, mais voilà. Et alors, et à ce moment-là, Dieu le délivre de tous ses ennemis. Et il dira, et je lis dans 2 Samuel chapitre 7, verset 1, il dit « Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il y a un moment, il est assis dans son palais, il y a une table abondante, et les ennemis, il n'y en a plus. Il dit, tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. C'est toi qui t'es occupé de la situation. Il y a peut-être un récit biblique qui pourrait illustrer cette image. C'est, vous souvenez, quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, et 2 millions de personnes et quittent l'Égypte, mais ils partent vers le désert du Sinaï. 2 millions de personnes qui vont aller dans le désert. Mais ils ont pris la mauvaise porte là. Ils vont à leur perte. Et tous les Égyptiens, mais toutes les autres nations alentour, c'est 2 millions de personnes qui se déplacent, c'est pas rien. Surtout, tout le monde avait entendu parler de tout ce qui était arrivé, les plaies en Égypte, hein, c'était arrivé jusqu'à Jéricho, hein, ils en ont parlé. Il dit, mais leur Dieu, on ne comprend pas. Leur Dieu, il les a fait sortir de l'Égypte, et maintenant il les emmène dans le désert. Alors là, c'est à leur perte. Et oui, mais c'est pas Dieu, il sait ce qu'il fait. Parce qu'il a, pour eux, il a dressé une table aussi. Il y a eu la manne qui est tombée chaque jour. Et Dieu a pourvu. Et pendant 40 ans, ils ont vécu dans le désert. Chose incroyable. Normalement, ils n'auraient pas pu vivre là 3 mois. En moins que ça, déjà, ils se plaignaient du manque d'eau. Mais Dieu a pourvu et l'eau, et la viande, et la nourriture, il a tout pourvu. Il a dressé une table devant les ennemis. Tout le monde était là en train de regarder. Vous savez, ce que le Seigneur veut faire dans votre vie, peut-être qu'est-ce qu'on passe par des moments difficiles. Et ils sont, c'est une vallée de l'ombre de la mort. C'est pas la peine de faire ça joliment et mettre en couleur. Non, non, c'est du noir et blanc. Mais laisse faire le Seigneur. Et il y a un jour où Dieu t'élèvera et te donnera la paix et tout le monde regardera et dit « J'aurais jamais cru ça. Comment cette personne est sortie de cette situation? Comment elle a pu rebâtir sa vie? Comment sa vie maintenant est meilleure que ce qu'elle avait avant ?» Vous savez, c'est ça que Dieu veut faire. Et vous savez, j'y crois parce que la Bible dit, mais vous savez, dans mon expérience en tant que pasteur, je l'ai vu combien de fois? Je vais parler de... je crois que c'est récemment, je vais parler de cette sœur en région parisienne qui a un jour d'anniversaire, le même jour que moi. Et donc, je l'appelle chaque année, et puis on s'appelle pour se dire qu'on a vieilli. Et alors, mais vous savez ce qui est extraordinaire? C'est qu'elle, quand on l'a rencontrée, Son mari avait essayé de la tuer et elle était à la rue, elle n'avait plus où aller, elle n'avait rien du tout, plus rien. Et elle a mis sa confiance en le Seigneur, on lui a parlé du Seigneur, elle a mis sa confiance en le Seigneur, elle a dit je crois, le Seigneur va faire. Et petit à petit, elle reconstruit sa vie. Aujourd'hui, la dernière fois que je lui ai parlé, sa fille aînée est infirmière à Lille. Son fils est ingénieur en région parisienne. Sa petite, eh bien, se prépare pour politique internationale et elle veut rentrer à l'ENA. Et elle est directrice dans une maison de retraite. Et puis, tous les autres de la famille qui ont vu ça, ils disent, mais on n'aurait pas cru. On n'aurait pas cru. Et ça, c'est une femme d'un pays étranger, hein, qui a des difficultés supplémentaires. Mais le Seigneur lui a dressé une table devant ses adversaires. À son baptême, son mari est venu là, parce qu'elle l'a invité à son baptême. Et juste avant d'entrer dans l'eau, elle a dit à son mari, je te pardonne tout. Mais le Seigneur a fait une œuvre, il a dressé une table devant ses adversaires. C'est ce que David a vécu. Tu dresses une table en face de mes adversaires, tu leur fermes la bouche. Je n'ai pas pris la situation entre mes propres mains, je n'ai pas essayé de me venger, je n'ai pas dit rien sur eux. Mais je mets ma confiance sur le Seigneur. Et c'est toi qui me rétabliras. C'est toi qui écriras la fin de mon histoire. Et en général, si nous sommes patients, eh bien, c'est une belle histoire, c'est une belle fin. Et ici, dans le psaume 23, David ajoute, il a dit, non seulement est-ce que tu as dressé une table en face de mes adversaires et tu les as fermé la bouche, mais en plus, tu oins d'huile ma tête. L'onction, il a été oint par Samuel, juge et prophète. Il avait été oint, mais personne n'a tenu compte. Quand il avait 17 ans, un petit gamin, personne n'a tenu compte. Mais la manière dont Dieu l'a béni dans le royaume, eh bien, l'onction était évidente. Il dit, tu oint d'huile ma tête. C'est toi qui l'as fait. C'est pas moi, je n'ai rien demandé à quelqu'un. C'est toi qui as montré que j'étais ton choix. Et il dit, et ma coupe déborde. Ma coupe déborde, la coupe qui déborde, c'était le signe de l'abondance. Il dit, non seulement tu pourvois le nécessaire, mais tu m'as donné mais généreusement. Il rend témoignage. Il dit, oui, il y a eu des moments difficiles dans ma vie. Mais l'Éternel était mon berger tout le long. Et maintenant, l'Éternel est mon berger quand tout va, les choses sont rétablies. Et tu t'es occupé de tous ceux qui disaient du mal contre moi, tous ceux qui y ont vu, eh bien, c'est toi qui fermes leur bouche et tu les laisses dans l'étonnement. Mais moi, je sais d'où ça vient, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui as tout fait. Vous savez, c'est question de chacun d'entre nous. Il y a un moment où on vient à Dieu, on dit, Dieu, écoute, voilà la situation, voilà où elles sont. Je ne vais pas essayer d'améliorer, tu sais tout. J'ai pas besoin d'essayer de te tromper, tu sais tout cela. Je viens avec mon péché, je viens avec mon passé, je viens avec tout. Seigneur, je te donne ma vie et je te fais confiance. Ce monde dans lequel je vis, il ne s'occupe pas de moi. Mais toi, je te fais confiance. Je veux que tu sois mon berger. Et je vous dis que ce psaume va se réaliser dans votre vie. Si je suis enfant de Dieu et je dois passer, et David était déjà croyant, c'est sûr, mais ce n'est pas parce qu'il était croyant qu'il n'a pas eu des moments difficiles et des moments où il n'a pas compris ce qui se passait. Mais il a dit, l'Éternel, tu es mon berger et je te fais confiance. Et tu seras toujours mon berger. Là, il n'y a pas de discussion. David a eu des moments de faiblesse, David a eu des chutes. Mais l'Éternel était toujours son berger. Et il a été jusqu'au bout. Et ça, c'est le choix de chacun d'entre nous. Si je veux que Dieu écrive la fin de mon histoire, et qu'elle soit belle, parce que sa gloire en dépend. Faisons confiance à Dieu. Je vais donner quelques moments de silence et que chacun puisse, peut-être, il y a eu des pensées, des choses qui sont venues et voulez-vous les dire rapidement au Seigneur et dire, je t'en parlerai encore tout à l'heure, mais rapidement, écoute Seigneur, voilà cette partie-là, il faut que je règle ça, il faut que je vois ça, je veux vraiment, je veux te prendre comme mon berger. et faites-le, et le Seigneur prendra. Je me tais là, et puis que chacun prie dans son cœur, et ensuite je prierai à haute voix.